Europe 1, il est 8h01.
Ce ponton est une de ces pratiques qui nous montrent que les autorités veulent retrouver le plus vite possible le nombre de touristes que nous avions auparavant. Le raz-de-marée des paquebots et des compagnies low-cost va-t-il revenir troubler Venise et l'eau de ces canaux que le confinement avait rendu transparente? Reportage de notre envoyé spécial dans une sérénissime qui entend le rester. En France, les flots d'argent public déversés sur l'apprentissage, les start-up, l'aéronautique, un troisième budget rectificatif, une prime pour les personnels de tout le secteur social et médico-social, c'est une information Europe 1, et le mur de la dette, 120% du PIB, notre coup de fil du journal. Il faut rester très vigilant, prévient le Conseil scientifique, la preuve, avec ce nouveau cluster parmi les travailleurs saisonniers.
Qui peut savoir aujourd'hui, sur son exploitation, s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectée? On
ne
sait pas.
On ne sait pas non plus, en matière militaire, comment se sortir du bourbier au Sahel, nous dira Vincent Hervouet. Et puis, revoilà les générations dorées du foot français, 94-98, Luis Fernandez mène la fronde contre l'actuel président de la Fédé.
Je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est le business, c'est le marketing, c'est le marchandising. Mais on a aussi besoin des valeurs, qu'on puisse se penser collectif.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Augustin de Romanet, le PDG du groupe Aéroport de Paris. 8h30 en ligne du Texas, mon invité, le chef de la police de Houston, Art Acevedo. Exclusivité Europe 1, avant de retrouver Nicolas Canteloup, bien sûr, et la revue de presse. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 8h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, François Giffrier.
Pour une fois, ces ruelles et ces ponts ressemblaient aux cartes postales, puisqu'on n'y voyait pas le moindre cornet de glace ni grappe de touristes. Venise avait retrouvé son calme, des poissons dans ses canaux et le rêve d'une vie plus tranquille.
C'est l'étape du jour pour notre reporter Jean-Sébastien Soldaini à travers l'Europe, la cité des Doges, où l'on hésite à changer de modèle, mais la pression économique est forte.
Stefano Croce, le président de l'association des guides vénitiens, nous emmène là où les touristes ne vont pas d'habitude. Un petit canal entouré d'habitations, sans restaurant, mais il craint que ce calme ne dure pas, car pendant le confinement, un ponton s'est construit en catimini, de quoi débarquer jusqu'à 1000 touristes par jour.
Ce ponton
est une de ces pratiques qui nous montrent que les autorités veulent retrouver le plus vite possible le nombre de touristes que nous avions auparavant, et même plus de touristes, avec le risque de faire fuir les Vénitiens.
À l'écouter, le maire veut relancer la machine et il laisse faire. Mais il semble que ce soit les professionnels du tourisme eux-mêmes qui veulent mettre le holà. Joëlle est hôtelier et il veut vite réveiller les consciences.
Pour un petit moment encore, il n'y aura plus de bateaux et moins de vols low cost. Donc les flux vont être réduits. Et c'est dans cet intervalle de temps que nous devons être capables de nous réinventer.
En attendant, le clocher de la basilique Saint-Marc sonne sur une place déserte, comme un compte à rebours. Venise, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Reportage à retrouver aussi sur europe1.fr et sur nos réseaux sociaux.
Et on ne se privera pas de rappeler, malgré les merveilles vénitiennes, que la première destination touristique au monde est la France, avec parmi ses joyaux les châteaux de Chambord, qui rouvrent aujourd'hui, et de Versailles, demain. Le tourisme, qui fait partie des secteurs soutenus financièrement par l'État, parmi une longue liste, la culture, l'automobile, et ce n'est pas fini. 40 milliards d'euros sont mis sur la table, intégrés à un troisième budget rectificatif. Pour quelle priorité, Emmanuel Dutheil ?
Alors, quatre gros secteurs sont aidés par des mesures spécifiques. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement va présenter son plan d'aide pour les start-up. En début de semaine prochaine, ce sera un grand plan pour soutenir l'aéronautique. Un fonds d'investissement va être mis sur pied pour permettre aux entreprises du secteur de continuer à investir, notamment dans les technologies d'avenir. Des dispositifs de garantie vont aussi être financés pour inciter les compagnies aériennes à ne pas annuler leurs commandes d'avions. Alors, il y a aussi le plan automobile dont on a beaucoup parlé, avec l'énorme chèque pour Renault et la batterie de mesure pour nous inciter à acheter des voitures. Autre énorme plan de soutien, celui pour le secteur du tourisme, des restaurants, de la culture, un plan qui pourrait être encore renforcé dans l'entourage de Bruno Le Maire. On se dit favorable par exemple à des chèques verts pour financer les dépenses d'énergie ou à un renforcement des chèques vacances. Des sommes astronomiques qui viennent encore plus creuser le trou, mais Bercy le promet, pas question d'augmenter les impôts. C'est la croissance qui viendra rembourser nos dettes, dit-on au ministère de l'économie.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Hier, c'est l'apprentissage qui s'est vu promettre 1 milliard d'euros sous forme d'aide à l'embauche, de 5 à 8 000 euros par contrat. On attend 600 millions d'euros pour les start-up.
Avec toutes ces dépenses, on a un chiffre estimé hier par le gouvernement, la dette française atteindrait 120% du PIB en 2020. Autrement dit, ce que la France doit à ses créanciers dépasse largement ce que toute notre économie produit comme valeur en une année.
Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du site d'information Fipeco et ancien magistrat de la Cour des comptes. Tout ça peut paraître un peu abstrait, 120% du PIB. C'est historique. Est-ce que c'est dangereux à terme pour la France ?
Alors, c'est toujours risqué d'avoir une dette publique qui augmente beaucoup, parce que plus elle est élevée, plus on prend le risque de voir les créanciers de l'État eux-mêmes s'inquiéter et demander des taux d'intérêt plus élevés et éventuellement un jour ne plus prêter à l'État. Mais dans le cas de la France, c'est un risque à très long terme. Aujourd'hui, heureusement, nous appartenons à la zone euro et tant qu'elle tient le coup, la Banque Centrale Européenne permet de financer les États à des taux d'intérêt très faibles. Donc, dans l'immédiat, nous pourrons emprunter jusqu'à 120% de notre PIB et même plus encore, il n'y a pas de risque immédiat.
Alors, le gouvernement cherche à rassurer, dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Finalement, on va finir par se dire que ces déficits, ce n'est pas la peine de les réduire, jamais.
Ah, si, parce que ce risque que j'évoquais qu'un jour, quand même, les taux d'intérêt remontent et que les créanciers de l'État prennent peur, ce risque, il existe toujours. Si, par exemple, il y a plus d'inflation un jour dans la zone euro, parce que, justement, on a mis beaucoup de liquidités dans l'économie, on a augmenté beaucoup les déficits publics, à ce moment-là, la Banque Centrale Européenne sera obligée de remonter ses taux d'intérêt, et à ce moment-là, on sera dans une situation où il sera beaucoup plus difficile d'emprunter. Et donc, avant de se retrouver dans cette situation, il va falloir quand même réduire les déficits publics.
Merci François Eckhall, fondateur du site d'information sur les finances publiques Fipeco, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct ce matin.
La pression continue de s'alléger sur le système de soins français. Encore 47 patients de moins en réanimation. Pour autant, si on regarde l'historique des grandes pandémies de virus respiratoires, vous en avez 5 sur 10 qui récidivent à l'automne. Voilà l'alerte de Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, dans le journal Le Parisien ce matin.
On recense d'ailleurs une trentaine de malades dans différentes exploitations agricoles du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Des travailleurs étrangers nécessaires à la récolte des abricots, des pêches ou encore des haricots verts. Nathalie Chevance.
Un camping au milieu des champs, c'est là que sont rassemblés 130 travailleurs étrangers, dont une dizaine testés positifs au Covid. Quatorzaine obligatoire pour tous, dans des conditions pas toujours bien acceptées, puisque deux d'entre eux ont voulu s'échapper. Manque de surveillance des services de l'État, c'est ce que dénonce Jean-Philippe Matéki, adjoint au maire de Nove.
Deux travailleurs espagnols qui voulaient rejoindre leur pays. À leur décharge, ils ne sont plus payés. J'imagine qu'on a eu un défaut de pédagogie et qu'on aurait peut-être dû maintenir la présence des médecins ou des psychologues. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a aucun moyen alloué pour la surveillance du site. Il peut y avoir d'autres cas, ce qui génère pas mal d'inquiétudes pour les habitants.
Car ces ouvriers travaillent souvent sur plusieurs exploitations, ce qui peut favoriser la propagation du virus. Résultat, quelques 2000 tests sont lancés, ce dont se félicite Patrick Lévesque, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
On se sécurise, on va faire des tests. Beaucoup d'employeurs de main-d'œuvre amènent leurs salariés pour se faire détecter. Qui peut savoir aujourd'hui sur son exploitation s'il n'a pas eu un travailleur qui a été en contact avec une de ces personnes qui a été infectés, on ne sait pas.
Et les résultats de tous ces tests seront connus dans les prochains jours, un épisode dont les agriculteurs se seraient bien passés en pleine période de récolte. Nove, Nathalie Chevance, Europe 1.
Au Brésil, on compte désormais plus de morts du coronavirus qu'en Italie, 34 000 recensés au total et près de 1500 ces dernières 24 heures. Et puis, au Venezuela, cette accusation tombée dans la nuit du ministre des Affaires étrangères du pays, qui laisse entendre que la France héberge l'opposant Juan Guaido, autoproclamé, dans l'ambassade de France à Caracas.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Angela Merkel peut-elle rempiler pour un cinquième mandat ? Vous entendrez sa réponse. À tout de suite.
Europe 1, il est 8h12, la suite du journal, François Geffrier, Mathieu Béliard.
L'Allemagne semble s'en être très bien sortie face à l'épidémie de coronavirus. À tel point que des rumeurs montaient sur un nouveau mandat d'Angela Merkel comme chancelière.
Celle-ci a été interrogée sur le sujet à la ZDF, une télévision allemande. Une nouvelle candidature de chancelière ? Non.
Vraiment pas.
Non. Ganz fest, vraiment pas, dit Angela Merkel.
On va rester à l'étranger, avec la coalition anti-Daesh qui est inquiète. Les ministres des Affaires étrangères des pays occidentaux ont tenu une réunion hier. Leur constat ? La menace grandit, les djihadistes essaiment au Sahel et rien n'est réglé au Moyen-Orient. Vincent Hervouet.
Avec les réunions en visioconférence, les ministres font l'économie des salam alek, mais ils perdent aussi l'occasion de conspirer, de négocier. Il ne faut pas trop attendre de la diplomatie numérique, elle est platonique. Le communiqué final de la coalition anti-Daesh, publié hier, est un catalogue de vœux pieux, de principes déclamatoires, de prudences inquiètes. Et pourtant, C'est le groupe restreint de la coalition, les pays qui mettent des moyens sur le terrain, qui connaissent la menace djihadiste. L'explication, c'est le sentiment d'être dans l'impasse. Il y a un an, les djihadistes étaient défaits. Les prisonniers ont été confiés aux Kurdes. Depuis, ils végètent entre deux mutineries. Les autres se sont cachés en Syrie, dans le désert et sur les bords de l'Euphrate, en Irak, sur une large bande au nord. Ils ont léché leur plaie, reconstitué leur réseau, et depuis le Ramadan, eh bien, ils attaquent. En Irak, tous les jours, et parfois des assauts coordonnés contre les miliciens chiites. En Syrie, des embuscades où l'armée syrienne a perdu des centaines d'hommes.
Les ministres parlent d'une menace croissante au Sahel.
Les groupes armés s'y sont multipliés, les trafics, les règlements de compte entre tribus aussi, les États vacillent, les dirigeants locaux jouent sur le sentiment anti-français pour faire oublier leur échec. On dit qu'il faudrait du développement, mais on sait que c'est impossible sans règlement politique. Cette bérésina est largement française, les Américains nous aident, mais les Européens font le minimum.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe 1. Dans le domaine des coalitions, il y a celle qui d'habitude se joue en 4-4-2 sur une pelouse. Dans le foot français, c'est plutôt une conjuration qui semble se monter face au président de la Fédé, Noël Le Graët. Luis Fernandez est à la manœuvre, il a même un début de programme.
Dans ce bateau, il manquait un grand chef, un grand patron. J'ai pris le téléphone, on en a parlé avec ceux de 84 comme ceux de 98, et on a discuté, on a échangé, puis voilà, puis on a envie d'avoir une place, on a envie qu'on puisse nous intégrer, parce que jusqu'à présent, on n'a pas ce sentiment-là. On demande à une équipe de football sur un terrain d'avoir un état d'esprit irréprochable, ça n'a pas été le cas là. La fédération ou la ligue, chacun cherchait à défendre ses intérêts, on doit le faire différemment. Je sais très bien qu'aujourd'hui, le football, c'est le business, c'est le marketing, c'est le marchandising. Oui, on en a besoin de cela, mais on a aussi besoin de, tu sais, des valeurs, qu'on puisse penser collectif.
Luis Fernandez, tu sais, au micro Europe 1 de Jean-François Pérez.
Merci François Geffrier. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Notez bien ce rendez-vous à 8h30 tout à l'heure, dans un quart d'heure. Je reçois Art Acevedo, le patron de la police de Houston. Après la prise de position de Donald Trump sur le déploiement de l'armée, il avait fait parler de lui. Écoutez, avec ses déclarations sur CNN.
Laissez-moi juste dire au président des États-Unis de la part des chefs de la police de ce pays, s'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche.
Eh bien cet homme, c'est peut-être un des hommes qui a la plus grosse pression du week-end. Il reçoit énormément d'Américains pour les funérailles de George Floyd mardi. La dépouille de George Floyd sera exposée à la population lundi. Et il est notre invité à 8h30 tout à l'heure. 8h15, nous retrouvons Sonia Mabrouk ce matin avec son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Veuillez attacher votre ceinture, porter votre masque, PNC aux portes, armement des toboggans, ouais. C'est bien ça. Le commandant et son équipage vous souhaitent la bienvenue sur ce vol. Vous l'avez compris, les avions bientôt de retour dans le ciel. Quelle consigne, quel changement, quelle vision de l'environnement. Notre invité, Augustin de Romanet, c'est le PDG du groupe Aéroports de Paris.
Il est 8h18, Mathieu Béliard.
Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Augustin de Romanet, président directeur général d'Aéroports de Paris.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour à vous Augustin de Romanet.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Une échéance tout d'abord et un signal aussi, la réouverture de l'aéroport Paris-Orly, ce sera le 26 juin. Vous savez quelle sera l'ampleur du trafic de la reprise à cette date-là ?
Le fait que nous ayons décidé de rouvrir Orly un petit peu avant ce qui aurait été raisonnable financièrement a eu l'effet positif escompté, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compagnies, notamment de compagnies basées hors de France, ont vu ce signal comme une invitation à recréer des programmes de vol. Donc nous avons un certain nombre de compagnies étrangères qui envisageaient de revenir simplement à mi-juillet à Orly et qui ont décidé d'avoir des programmes de vol dès le 26 juin. Donc nous accompagnons une reprise du transport aérien qui est indispensable.
Reprise, réouverture donc, Augustin de Romanet, avec les conditions sanitaires bien sûr, port du masque obligatoire et caméra thermique, il était temps, la plupart des aéroports internationaux en disposent.
Oui, ce que nous avons découvert, c'est que par exemple, dans ce domaine, les pays africains étaient beaucoup plus avancés que nous. Ils ont l'habitude de gérer des fièvres, des épidémies, etc. En fait, la caméra thermique, c'est un grand mot pour quelque chose qui est extrêmement simple. Il s'agit simplement de passer devant un système qui détecte automatiquement, sans aucune intrusion, le fait que vous soyez positif ou pas. Et l'expérience que nous avons menée à Charles de Gaulle depuis quelques jours est très intéressante. Nous avons vu 10 000 personnes passer devant nos caméras. Le petit logo rouge s'est affiché 95 fois.
Ah.
Mais nous vérifions avec un pistolet personnalisé. Nous avons détecté une seule personne qui avait de la fièvre confirmée. Et c'était en réalité, après examen médical, un coup de soleil.
Bon, tout va bien alors. pour cette personne. Mais est-ce qu'il faut s'attendre, j'ai bien compris, quelle était évidemment l'utilité de ces caméras thermiques, à des délais plus longs pour monter dans l'avion ?
Des délais un petit peu plus longs, mais pas nécessairement très étendus. Ce qui est clair, c'est que au moment où vous serez dans la salle d'embarquement, il faudra respecter les distanciations physiques et donc il y aura peut-être nécessairement un peu plus de délais. Cela dit, à contrario, on peut considérer que l'attention portée au parcours du passager va s'accroître dans des telles conditions et le souci de tous les acteurs de la chaîne d'éviter les attroupements fera que peut-être le parcours sera tout aussi fluide. J'ai notamment bon espoir qu'à la police aux frontières, des longues files d'attente comme celles que nous avions auparavant ne soient même plus acceptables par le système policier lui-même.
C'est important ça, évidemment, Augustin de Romanet. Il y a beaucoup d'auditeurs ce matin qui vous écoutent d'outre-mer et d'ailleurs peut-être aussi du Maghreb. Les premiers vols depuis l'aéroport d'Orly devraient être pour les départements de l'outre-mer. Il y avait une vraie demande, même une pétition à ce sujet pour réclamer la reprise des vols.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a encore une préoccupation sanitaire très forte outre-mer. Ce que nous souhaitons garantir par le mécanisme dit des corridors sanitaires, c'est une espèce de respect de la chaîne de la propreté des aéroports du début jusqu'à la fin qui va, je pense, conduire les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer à s'ouvrir beaucoup plus au transport aérien. Donc j'ai très bon espoir que début juillet, ce trafic puisse reprendre, la demande est très forte.
C'est important, début juillet, départements d'outre-mer et au-delà, par exemple, l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi une échéance, une date.
Ce que nous savons, c'est que l'ensemble des pays de la Méditerranée, qui sont en fait des grands pays récepteurs de tourisme, pour certains d'entre eux, je pense par exemple à la Croatie, c'est 25% de la richesse nationale qui est liée au tourisme. Donc, ce que nous observons dans tous ces pays de la Méditerranée, c'est un immense désir d'attirer les touristes. Par exemple, dans les pays du Maghreb, nous savons que les offices du tourisme travaillent d'arrache-pied pour accueillir les touristes, même si les gouvernements sont encore un petit peu en arrière de la main. Mais nous voyons que le mois de juin va être le mois au cours duquel tous les gouvernements vont se poser la question de savoir si oui ou non ils rouvrent le tourisme. Et il y a une compétition aussi dans ce domaine-là. Et le tourisme, c'est la vie, c'est des recettes pour tous les gens des pays récepteurs. Donc j'ai assez bon espoir que dès lors qu'on arrive à contrôler la circulation du virus, ce qui est le cas aujourd'hui, le trafic reprenne assez vite.
Vous dites qu'il y a une compétition, Augustin de Romanet, mais quand vous entendez des ministres comme Elisabeth Borne à la transition écologique ou encore Jean-Baptiste Lemoyne au tourisme, vanter un tourisme local bleu, blanc, rouge, c'est pas fait pour aider le secteur aérien et les déplacements.
Écoutez, les deux ne sont pas incompatibles. Il y a suffisamment de place pour tout le monde et donc ce tourisme blanc, blanc, bleu, blanc, rouge...
Là, vous ne voulez froisser personne, mais force est de constater que ça n'aide pas quand on dit rester en France.
Vous demanderez à mes collaborateurs, je leur dis tous les matins que ce n'est pas parce que l'assiette du voisin se remplit que ça vide la mienne. Donc l'idée de défendre Pierre plutôt que Paul m'est étrangère.
Je ne dis pas ça, mais quand on regarde quand même un petit peu à côté, nos voisins européens, et en particulier l'Italie, a rouvert ses aéroports avant-hier et en même temps ses frontières. L'enjeu touristique, il est quand même primordial. C'est une bataille, un leadership aujourd'hui.
Mais bien sûr que c'est une bataille. Tout à l'heure, Catherine Pégard parlait à juste raison du fait que Versailles était très dépendant des touristes chinois et américains. Et c'est une de mes préoccupations. Autant je peux dire que cet été, l'Europe va réouvrir, autant il est exact que pour beaucoup de dirigeants des pays d'Asie, l'Europe est une zone rouge. Il est exact qu'aux États-Unis, chaque gouverneur a une position différente et que le président Trump, malgré le fait qu'il ait dit il y a une semaine qu'il était prêt à accueillir les touristes européens des pays qui avaient maîtrisé la pandémie, n'est pas tout à fait sûr de lui. Donc, un gros enjeu pour le transport aérien, notamment pour les compagnies aériennes, notamment pour les assistants en escale, qui sont des acteurs essentiels de la chaîne du transport aérien et qui sont en situation financière très fragile. N'oubliez pas que nous avons perdu 98% de notre chiffre d'affaires, aussi pour les aéroports.
98%.
Nous sommes, pendant 3 ans, on a dit avec les débats sur la privatisation que nous étions une poule aux œufs d'or. Eh bien, la poule aux œufs d'or, un jour, elle n'a plus d'œufs. Donc, il est très important pour l'ensemble de la collectivité de la chaîne du transport aérien, que le trafic reparte, y compris en provenance d'Asie, à destination d'Asie, et vis-à-vis du monde américain.
Une parenthèse, la privatisation, puisque vous en parlez, Augustin de Romanet, elle est enterrée, que vous a dit l'État à ce sujet ?
Alors, je n'ai pas eu particulièrement de commentaires de l'État à ce sujet. Je n'ai pas l'impression que ça soit en haut de sa pile, mais je n'ai pas eu d'informations.
Vous parlez des difficultés des compagnies aériennes. En contrepartie des aides accordées par l'État à Air France, il est demandé, Augustin de Romanet, à la compagnie de supprimer des trajets pouvant être réalisés en train en moins de 2h30. Air France s'y engage. Est-ce que vous avez votre mot à dire ou pas sur ce sujet ?
Alors, est-ce que j'ai mon mot à dire ? Non. Est-ce que j'ai une opinion sur la question ? Oui. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, notamment chez certains de vos confrères. Je pense que dans une économie de marché, la régulation se fait plutôt par les prix que par l'interdiction administrative. Et si on considère que des transports de courte distance sont abusivement émetteurs de CO2, eh bien on les taxe éventuellement, on fait augmenter le prix. Si on augmente le prix, ça diminue la propension à consommer. Et avec ces taxes, on peut faire de la recherche pour les biofuels et la réduction des émissions de CO2. Il y a deux choses qui sont claires. Le transport aérien ne pourra pas continuer sa croissance s'il ne réduit pas ses émissions de CO2. La deuxième chose, c'est qu'un monde sans transport aérien n'est pas un monde que nous souhaitons, y compris pour des distances qui sinon seraient réservées
alors
aux personnes qui pourraient louer des avions d'affaires. Moi, je ne souhaite pas un monde du transport aérien où seuls les riches pourront aller au Bourget pour pouvoir faire...
Ah bon, c'est ça l'alternative. Si on supprime par exemple Paris-Bordeaux, eh bien soit ce sera les avions privés, soit peut-être les low-cost européennes qui vont venir prendre la place d'Air France.
Écoutez, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il sera définitivement interdit d'aller à Toussus-le-Noble ou au Bourget pour prendre un petit avion pour aller à Casteljaloux ou à Annecy. Mais est-ce que c'est le monde que nous voulons ?
Par votre question, vous avez répondu.
Non. J'ai répondu que c'est un monde que je pensais mauvais.
Le monde d'avant, d'après, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, Augustin de Romanet, en tous les cas, il va falloir être inventif. Vous avez dit tout à l'heure l'amputation de votre chiffre d'affaires et on se rappelle que le groupe ADP est un groupe avec une possibilité de licenciement malheureusement aussi pour vous.
La question de la survie économique d'un groupe est posée à tout moment lorsqu'on est dans une crise telle que celle-là. J'ai de multiples parties prenantes que je dois prendre en compte. Et évidemment, le souhait de tout entrepreneur, c'est de préserver l'emploi au maximum. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de parler de mesures d'adaptation avant que nous n'ayons pris l'exacte mesure de ce qui va nous arriver.
Pour conclure, Augustin de Romanet, vous êtes à un poste important, évidemment, d'action et d'observation. Qu'est-ce qui nous attend selon vous ? Vous avez publié il y a quelques années, je m'en souviens, un livre, Non aux 30 douloureuses, appelant au retour d'un État stratège. Il est revenu, il est temps qu'il revienne ?
Cette pandémie aura été un banc d'essai de la qualité de la gestion administrativo-politique des États. Et ce qu'on observe, c'est que les États qui sont les plus slim, les plus smart,
c'est-à-dire
Singapour, oui. Taïwan, la Corée, qui ont des administrations qui fonctionnent comme des entreprises privées.
Et pas de bureaucratie, pas de technocratie trop lourde, c'est ça ?
Ces États-là ont probablement eu un délai de réaction plus rapide et dont on a vu que c'était la clé du succès dans la lutte contre une pandémie. Donc il ne s'agit évidemment pas d'accabler tel ou tel État en particulier, mais ce qu'on a vu, c'est qu'en moyenne, un certain nombre d'États asiatiques ont un temps de réaction plus rapide que les États européens. Et donc, ça nous invite, nous, mais nous avons les moyens, nous avons des jeunes générations qui sont formidables, parce que je le disais dans Non aux 30 douloureuses, je suis très optimiste pour les années qui viennent. Néanmoins, c'est vrai que nous allons avoir des moments de transformation à réaliser, c'est ça qui est passionnant.
Beaucoup de leçons donc à venir. Merci Augustin de Romanet d'avoir répondu à mes questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci Sonia Mabrouk, 8h28.
Europe 1.
Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Tu as changé le monde. L'éloge funèbre à George Floyd, ces mots, ce sont ceux du leader américain des droits civiques, le révérend Al Sharpton. La mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d'un policier, a eu dans un instant l'homme qui connaît la plus grande pression du week-end, probablement. Le chef de la police de Houston, au Texas, où a grandi George Floyd, où il sera enterré avant ce week-end sous tension, le Houston Police Chief, Art Acevedo, dans deux minutes sur Europe 1.
Il est 8h31 et votre invité exceptionnel, Mathieu Béliard. Nous sommes aux États-Unis, le chef de la police de Houston, au Texas, Art Acevedo.
Bonjour Art Acevedo.
Hello, how are you, Matthew?
Très bien, merci. Le chef de la police de Houston, votre parole compte aujourd'hui à plusieurs égards. George Floyd a grandi à Houston, il y sera enterré, sa dépouille sera exposée à la population lundi. Qu'attendez-vous ce week-end ?
Eh bien, nous nous attendons à ce que les protestations se poursuivent, mais que cela se fasse dans le calme. La ville de Houston est la plus diversifiée de tous les États-Unis, la grosse ville avec la population la plus variée ethniquement. Et jusqu'à présent, les communautés sont dans un état d'esprit formidable, comme cela a pu être le cas dans d'autres situations à problème. Il peut y avoir des désaccords, des colères, mais la chose que nous partageons universellement, c'est que nous aimons cette ville. Houston est forte et nous faisons tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des uns et des autres.
Alors lundi, le monde entier aura les yeux rivés sur Houston. Vous aurez des gens venus rendre hommage, des manifestants, des dizaines de journalistes aussi. Combien de policiers sont mobilisés ? C'est une sacrée pression sur vos épaules.
C'est le cas, mais il y a aussi notre devoir. On est responsable de la sécurité de tous ceux qui seront là. Nous avons dans notre département 5400 officiers de police et nous aurons des renforts de la police de l'État, des services du shérif et puis des alentours aussi des collègues qui vont venir nous aider. Donc on a bien des atouts pour préserver la sécurité de la communauté.
Des jours de manifestations, de violences partout aux États-Unis, le discours de fermeté de Donald Trump. Si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez votre bouche. C'est ce que vous avez dit au président. Il est temps d'agir en président, avez-vous ajouté aussi. Est-ce qu'il manque à sa mission présidentielle ?
Eh bien, vous savez, je pense qu'il donne une évaluation individuelle à chaque personne qu'il a sous ses ordres. Mais ce dont on a besoin maintenant, ce sont de mots qui comptent. Nous n'avons pas besoin de leçons d'aucun leader à travers le pays, mais nous avons tous besoin de venir ensemble nous exprimer d'une manière qui favorise la cicatrisation des plaies, qui favorise la confiance, qui favorise la responsabilité et qui automatiquement amène à la paix et à la réconciliation. Il faut aller de l'avant et nous espérons que le président sera dans un discours plus constructif avec le peuple américain.
Mais vous êtes un professionnel du maintien de l'ordre. En fait, vous avez l'air de dire au président, là, vous n'aidez pas, vous ne nous facilitez pas la tâche.
Non, je crois qu'il faut savoir se tenir. Ce sont les États-Unis d'Amérique. On a la Statue de la Liberté qui nous a été offerte par des Français, je crois. Je ne suis plus sûr. En tout cas, c'est un symbole de ce que la démocratie doit être. C'est une reconnaissance de ce que notre pays a construit. On doit s'apporter de l'espoir les uns les autres. Et donc les individus qui ne veulent pas faire avancer le débat dans le bon sens, je pense que c'est mieux qu'ils ne disent rien du tout. Parce que jeter de l'huile sur le feu, ça ne sert à rien. Et la seule chose qui pourrait, ce qui pourrait justement éteindre les flammes de la haine et de la colère, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Alors j'espère, alors qu'on s'approche des funérailles la semaine prochaine, qu'on pourra s'aimer les uns les autres et en fin de compte arriver à des lois et à une politique qui mettent à l'écart les officiers qui violent le serment de confiance. Parce qu'ils ne sont plus des policiers. Et parce que ceux qui font bien leur travail méritent que l'on fasse tout notre possible pour écarter tous ceux qui violent le code d'honneur de la police américaine.
On reproche à Donald Trump de ne pas utiliser le mot « racisme ».
Vous savez, je ne sais pas ce qu'il a dit ou n'a pas dit. Moi, j'ai été trop occupé à garder la ville de Houston en sécurité, à maintenir les manifestants en sécurité. Et aussi, et c'est le plus important, à faire en sorte que les personnes qui sont venues se recueillir puissent honorer la famille Floyd. Elle a appelé les manifestants au calme, et pourtant elle les comprend parce que personne ne souffre autant qu'eux depuis la mort de George. La famille comprend la haine, et elle comprend aussi que le meilleur moyen d'honorer George Floyd, c'est de manifester sans violence. C'est ce que la famille veut, et donc pour revenir à votre question, moi je ne sais pas ce que le président a pu dire ou ne pas dire de plus que ce que j'ai déjà commenté.
Mais c'est quoi le problème aux États-Unis ? Il faut que vous expliquiez aux Européens ce matin. Est-ce que la police américaine est raciste ? Est-ce qu'on trouve des policiers racistes ? À vos yeux, qu'est-ce qui a conduit à la mort de George Floyd ?
Vous savez, ce qui a amené la mort de George Floyd, c'est un officier de police qui a utilisé une certaine technique. Qu'elle soit autorisée ou pas, je ne vais pas le commenter. Mais je peux vous dire qu'on ne laisse pas nos hommes utiliser des prises de karaté à moins de combattre pour leur vie. Là, le gardien de la paix a maintenu sa prise alors que la situation avait l'air d'être sous contrôle. Et alors que George a commencé à supplier pour sa vie, qu'il a même demandé sa maman, il a choisi tout simplement de continuer à lui maintenir le cou, de garder le genou sur son cou. Il a choisi de maintenir le genou sur son cou et c'est ce qui a causé la mort de George Floyd. Et trois autres officiers de police avaient le devoir d'intervenir et ils ne l'ont pas fait. Et ça me désole beaucoup, comme presque tous les officiers de ce pays. Y a-t-il des policiers racistes ? Oui. Mais je peux vous dire, après 30 ans de métier, que c'est l'exception et pas la règle. Et aujourd'hui, ils sont poursuivis pour meurtre et pour non-assistance à personne en danger. Alors, on est en bonne voie pour rendre justice à George Floyd et à sa famille. Et je pense que ce sera bien accueilli par la communauté afro-américaine qui, en voyant George Floyd allongé en suppliant pour sa vie, a vu le visage de ses proches. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans la police quand on voit les victimes de crimes. On voit souvent le visage de nos proches. Et je crois que si on commence tous à penser au visage de nos familles dans ce genre de situation, ça fera une bien meilleure police, pas seulement ici, mais dans le monde entier.
Art Acevedo, lorsqu'ils interviennent, les policiers, est-ce qu'ils ont peur ?
Vous savez, on entraîne nos officiers à surmonter les résistances, à gérer des cas complexes en garde à vue, à tout faire pour assurer leur propre sécurité, mais également en celle de la communauté. Dans notre département de police, dès le premier jour à l'académie, nous apprenons que la vie de chacun est primordiale. Sanctifier la vie doit être la chose la plus importante dans notre esprit et dans nos cœurs. Et pour ne plus avoir peur, on doit continuer à se comporter comme des hommes raisonnables et mesurés. Et dans les cas comme ceux de George Floyd et dans d'autres, lorsque ça ne se passe pas comme cela, évidemment, cela proportionnellement affecte plus les communautés de couleur, et c'est pour cela qu'il y a cette colère. Ce que je veux dire à vous, Français, c'est de continuer à prier pour la paix, pour la réconciliation ici, dans notre pays, parce que cette colère ne vise pas seulement la police. Il y a bien sûr des histoires de police très moches chez nous, mais il y en a aussi ailleurs. C'est aussi à cause des inégalités dans notre société ou dans notre économie. On a beaucoup de travail à accomplir, pas uniquement dans la police. Et ce moment est un instant clé. J'espère que nous allons travailler ensemble pour rendre notre pays meilleur et plus fort.
Art Acevedo, le chef de la police de Houston au Texas, sur Europe 1 ce matin. J'en terminerai par là. On vous a vu dans votre uniforme, un genou à terre, avec les manifestants. Vous êtes un immigré cubain, vous êtes arrivé enfant. Que ressentez-vous quand on accuse votre corps, la police, de racisme, vous personnellement, immigré cubain et policier ? Ça vous touche ?
Je peux vous dire que la très grande majorité des officiers de police sont en colère. Ils se sentent blessés et salis lorsqu'ils voient cette vidéo. J'ai parlé avec mes hommes, ils sont tous en colère. Car ils savent que lorsqu'un événement pareil arrive, ça nous impacte tous en tant que policiers. Mais je vous dis une chose, ce pays, aussi imparfait soit-il, est le seul au monde où un petit garçon venant de Cuba, avec son père et sa mère, et ses frères et ses sœurs, avec rien d'autre que 5 dollars que le gouvernement communiste nous a laissés, eh bien c'est le seul pays où ce petit garçon peut grandir et devenir le chef de la police de la troisième plus grande ville du pays. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'un fils d'Africain et de musulman comme Barack Obama puisse grandir et devenir président du pays. On n'est pas parfait comme pays, mais il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être.
Le chef de la police de Houston, entretien exceptionnel ce matin sur Europe 1. Art Acevedo, merci beaucoup.
Thank you, my friends. Au revoir.
Europe 1. Dans un instant, la revue de presse avec Nicolas Cantrou et Julie sur Europe 1. Il est 8h45 sur Europe 1.
Et ils sont là, Nicolas Cantelou avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est l'arrivée presque de Nicolas Clou. Et tout de suite, c'est à vous Mathieu Béliard.
Bonjour à tous, chers auditeurs, merci encore. On était sous le coup de l'émotion encore à Acevedo, le chef de la police de Houston, d'être venu témoigner sur Europe 1 de la situation à Houston, au Texas. Et oui, Houston, on a un problème. Ça fait des années qu'on le signale. Houston, on a un problème. Houston, on a un problème. Merci, Art.
Bien voilà. Joué.
Art, d'ailleurs, qui nous a rappelé avec beaucoup d'émotion l'importance de l'amour, de la bonté et du contrôle. Un chef de la police qui n'a pas botté en touche sur la question et sur le problème des violences policières. C'est vrai que ça nous change un peu de Christophe Castaner qui répète depuis un an et demi qu'il n'y a aucun problème à ce sujet. Alors, s'il vous plaît, chers auditeurs d'Europe 1, cotisons-nous. Offrons offrant un chien et une canne blanche à Christophe Castaner. Et puis, l'actualité ce matin, c'est aussi cette info sur les municipales à Lyon. Gérard Collomb est en danger, malgré son alliance avec la droite, ce qui rend furieux le président de la République.
Quel con, il trahit le parti et en plus il va paumer la mairie et la métropole. Non mais franchement, normalement quand on triche, quand on trahit, c'est pour gagner. Mais non, lui il va se viander. Collomb, c'est le gars qui paye l'arbitre pour truquer le match et qui ensuite va mettre deux buts dans son propre camp. Voilà, c'est Richard Schwierinck, c'est le gars qui se dope et qui perd quand même. Voilà.
Alain, sous son plein gré. Merci monsieur le président.
Je vous en prie.
De nombreux Français n'ont pas encore rempli leur déclaration d'impôt ou validé leur déclaration. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Écoutez, sur la déclaration, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Les Français qui ne la remplissent pas ou qui ne la valident pas sont des feignasses. Hein. Vous avez eu, franchement, ils ont eu 3 mois. 3 mois de confinement, vous n'avez que ça à faire, hein, de remplir votre feuille d'impôt. Alors qu'en plus, c'est une chose amusante, passionnante, joyeuse, ludique. Hein, moi, j'y ai passé mon week-end avec Pouline. Hein, ça a été de grosses barres de LOL ensemble à remplir cette déclaration, à la valider.
Attendez, parfois, c'est compliqué. Hein, ça peut prendre des heures.
Oui, ça peut prendre des heures.
En tout cas,
rassurez-vous, nous allons y pallier. Là, vu la situation économique de la France, je m'engage à ce que l'an prochain, le fait de la remplir soit beaucoup plus simple. Dans la case revenus, vous aurez juste à mettre 0. Hein, ce sera beaucoup plus simplifié. Simplification de l'administration française.
Alors, parlons d'autre chose, mais vous restez avec nous, hein, Bruno Le Maire.
Je vous écoute.
Paris Match révèle qu'au cours d'un déjeuner avec Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy a suggéré de nommer à votre place, au ministère de l'économie, Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor. Bah, écoutez, on va appeler Nicolas Sarkozy pour que vous en discutiez avec lui. Hein. Monsieur Sarkozy.
Bonjour et bienvenue sur Hôtels Accor de Paris-Bercy. Hello, welcome to the French Ministry of the Finance of Bercy, which is also is Hôtels Accor.
Ah bon, Monsieur Sarkozy, Bruno Le Maire est avec nous, il vous écoute.
Envie de relancer votre pays après un confinement général ? Les Hôtels Accor vous proposent de reprendre votre fonction ainsi que vos dossiers en économie et en gestion financière. Pendant ce temps, vous irez vous détendre et vous délasser dans un jacuzzi moussu et lavandisé. Et vous pourrez ainsi laisser votre place au personnel très compétent des Hôtels Accor qui travaille très bien et très mieux que vous.
Non mais dis donc le nabo, espère pas me savonner la planche, tu crois que je vois pas la manœuvre ? Hein, si tu comptes placer ton pote pour gouverner en sous-marin, tu te gourres.
Envie de démissionner, de retourner écrire des poèmes cucu sur un bureau Ikea ? Les Hôtels Accor vous apportent une aide logisticale en vous proposant une vaste gamme de sorties reliées à votre chambre. Sorties de secours, sortie vers l'entrée, sortie avec perte et fracas, sortie principale, sortie discrète, sortie des artistes. Les Hôtels Accor sont équipés de couloirs reliés à l'extérieur. Vous attendent taxis, limousines, zines, des autres avions, des autres fusées pour partir loin, très loin, sans avoir la nécessité absolue de revenir.
Ouais, et bien qui vient de me prendre ma place, là, le Sébastien Bazin, je m'en fous, moi je serai Premier ministre, et c'est à moi, vous verrez, qui rendra des comptes.
Les Hôtels Accor proposent également d'autres services, vous proposent également de dissuader président et autres chefs d'État de vous nommer à de trop fatigantes missions et de privilégier des instants détente sans rien faire pendant 10 ans dans une ambiance de calme et de décontracture pour tout le monde. Alors, merci les Hôtels Accor.
Merci Nicolas Sarkozy.
C'était un peu long.
Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a indiqué hier que le déficit de la Sécu allait atteindre plus de 52 milliards d'euros. Ben, il est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Darmanin.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Écoutez, ces chiffres effectivement sont très importants. Vous savez, ma grand-mère, qui était femme de ménage, disait souvent « sans richesse, vaut mieux que richesse sans santé ».
Voilà. Santé sans richesse vaut mieux que richesse sans santé, c'est ça? Ouais, oui, à peu près. Oui, j'ai remis dans l'ordre. Ouais. Mais c'est vrai que vous citez souvent votre grand-mère, hein, monsieur Darmanin.
Oui, tout à fait. J'aime bien citer ma grand-mère qui était pleine de bon sens. Le problème que n'avait pas prévu ma grand-mère qui faisait du vélo, c'est que santé, 152 milliards d'euros, cela veut dire plus de santé du tout dans peu de temps. Ne pouvait pas tout prévoir, mamie.
Et alors, que faire pour ces 52 milliards de déficit?
Vous savez, ma grand-mère qui habitait Tourcoing...
Oh là là.
Tourcoing, c'est une petite ville. Vous savez, c'est une petite ville, Tourcoing. C'est un coin dont on a vite fait le tour. Tourcoing. Tourcoing, c'est du latin. Ma grand-mère dit souvent, le travail, c'est la santé. Donc, il va falloir travailler comme des maboules pour boucher le déficit. C'est ça, la sagesse d'une grand-mère, vous savez.
Mais la crise économique qui s'annonce ne va pas faciliter les créations d'emplois.
Vous savez, ma grand-mère, qui était chef d'entreprise, disait souvent « Émile, arrête de dire des gros mots, on est à table. » Parce que mon oncle, Émile, disait souvent « Ah ben mes cocos, on l'a bien dans le cul la balayette. » Et pour le coup, c'est vrai, quand on regarde la situation économique de Tourcoing et de la France, d'une façon plus générale, oui, je me rends compte qu'Émile avait raison.
Eh ben très bien, merci Gérald Darmanin.
Mais je vous en prie, je retourne à Percy.
Éric Ciotti a déposé une proposition de loi afin que les personnes qui diffusent des vidéos de policiers non floutées soient sanctionnées. Une demande qui suscite la controverse en plein débat sur les violences policières. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Monsieur Béliard, vous avez vos papiers?
Oui.
Bon, ça va. Écoutez, oui, au sujet de ces vidéos... de violence policière. Oui. J'ai vu par exemple une vidéo d'un policier qui fait un croche-patte éhonté à une manifestante qui marche très près de lui. Oui. Eh bien, le gouvernement n'a rien fait pour protéger ce policier.
Mais pourquoi vouloir les protéger s'ils sont fautifs, s'ils sont en tort?
Mais madame Leclerc, parce qu'un policier, ce n'est pas le fessier de madame Kim Kardashian. Hein. Ça n'a pas vocation à circuler sur les réseaux sociaux. Hein. Savez-vous qu'un policier qui est identifié comme violent ou raciste risque de perdre son emploi?
Ah bah oui, quand même.
Hein. Donc vous voulez quoi? Vous voulez quoi au final? Vous voulez affamer des enfants innocents, des enfants de policiers parce que le père est au chômage? Vous aimez voir des enfants souffrir? Franchement, je suis écœuré par tant de concomitance.
Donc, vous voulez flouter les images des policiers et des manifestants qui s'affrontent pour préserver la présomption d'innocence de tous les protagonistes, disons.
Non, je veux juste flouter les policiers.
Ah, que les policiers.
Mais bien sûr, si un policier frappe un manifestant, on floute le policier.
Voilà. Oui, c'est ça.
Hein, et si un manifestant frappe un policier, pareil, on floute le policier. Hein. Mais oui, parce qu'il ne faut pas que ses collègues le reconnaissent, parce que c'est la honte absolue quand on est CRS, se faire bolosser par un étudiant de Tolbiac. Je vous laisse. Si vous pouvez flouter aussi M. Béliard de temps en temps. S'il vous plaît, d'ailleurs, M. Béliard, il y a gentillesse de m'aider à descendre de ma chaise. Oui, ne faites pas cette tête. Oui, j'ai oublié mon parachute ce matin.
Merci M. Ciotti. À bientôt. Allez, on va parler de Jean-Jacques Bourdin. On a appris qu'il allait quitter la présentation de la matinale d'RMC. Il sera remplacé par Apolline de Malherbe. Et il gardera juste son interview politique. C'est déjà pas mal. On va voir comment on accueille la nouvelle sur RMC.
Hey.
Oh là là.
Bonjour. Eh oui, il faut s'y résoudre. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, une des dernières fois. RMC, radio, maquillage et cuisine. Puisque oui, c'est une évidence, c'est une réalité, c'est une affirmation. Oui, c'est une confrère.
Une. La femme,
une,
oui.
Vous l'avez compris, c'est du féminin. Une confrère qui me remplacera en septembre. Oui, donc je passerai le relais à... comment s'appelle-t-elle?
Non, s'il vous plaît.
Christine, s'il vous plaît, approchez. La bonne femme qui me remplace l'an prochain, c'est quoi son nom déjà? Ah oui, Apolline de Malherbe. Voilà, bon, écoutez, sans commentaire, on va se laisser aller à la mélancolie ce matin. On reste d'attaque. Allez, c'est toujours votre matinale en direct. Et puis un auditeur qui nous appelle, c'est la tradition, et je prends... Christine, l'affiche. Voilà. L'affiche, c'est un homme. Ah, enfin. Un homme. On va tout de suite parler chiffon.
On ne va pas parler
non,
tout de suite.
On ne va pas parler chiffon, bien sûr. Bien sûr. Heureusement que vous êtes là, Julie. C'est René. Bonjour, Roger.
Ouais, salut Jean-Jacques.
Oh, bonjour.
Jean-Jacques, qu'est-ce que tu nous fais là? Ah. Excusez-moi, c'est l'émotion. Pardon, mais je peux pas le croire. Jean-Jacques, toutes ces belles années qu'on a passées ensemble, là, tu nous laisses pas franchement comme ça avec une gonzesse. Non, franchement. Qu'est-ce que tu veux que je lui raconte, moi, à Pauline aux fines herbes, là ? J'y connais rien, moi, mascara, couture, là, toutes ces conneries, là.
J'y connais rien, mascara, couture, toutes ces conneries. Qu'est-ce que je... Oui, écoutez, alors c'est pas Pauline aux fines herbes, hein, c'est Apolline de Malherbe, hein, René ? Et puis c'est une, vous savez, je la connais un petit peu, on est collègues. C'est une bonne femme pleine de qualités, vous savez. Son mari... allez, je dis tout à l'antenne, parce qu'on est proche de nos auditeurs sur MC. Son mari m'a dit qu'elle faisait un excellent bœuf bourguignon, par exemple. Vous voyez qu'elle est pleine de qualités.
Jean-Jacques, ne me quitte pas, Jean-Jacques. Tu sais, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il pleut pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Puis je vais te dire un truc, hein, il paraît qu'il y a des terres brûlées qui donnent plus de blé qu'un putain de meilleur avril. Hein.
M'avez touché, René. Allez, reprenez-vous, René. Vous allez vous y faire. Vous allez. Puis sinon, vous irez sur, vous irez sur Europe 1. C'est le petit Béliard sur Europe 1, c'est moi qui l'ai formé. Il sera ravi de vous accueillir, je le connais bien. Vous savez, lui aussi, il aime le foot. Les bagnoles, la bonne bouffe et les calendriers de filles à poil. Il va vous plaire. Allez, René, reprenez-vous. Bientôt sur Europe 1.
Oh là là. Quelle émotion.
Ne me quitte pas.
Bravo Nicolas, Julie et les auteurs de Nicolas Canteloup, ouais. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. La revue de presse à retrouver sur Europe1.fr, bien sûr. 8h58, Philippe Vandel nous a rejoint. La suite de la matinée, c'est Culture Média.
Exactement, je vous dis en quelques mots. Bonjour Mathieu, et puis j'ai un calendrier pour vous. L'excellente revue 21 qui fête son 50e numéro, sera avec sa co-rédac chef. La productrice Alexia Laroche-Joubert pour la finale de Koh-Lanta ce soir sur TF1, dans des conditions particulières à cause du Covid. Vous étouffez pas, Mathieu. Elle-même a été malade du Covid, elle va nous raconter ça. Et puis enfin, la romancière Sophie Fontanelle, ça c'est pour Omblin, pour les fables de la Fontanelle. C'est comme du La Fontaine, mais ça parle de fesses.
Écoutez, Philippe Vandel, de 9h à 11h, c'est Culture Média sur Europe 1. Bah, la matinale est terminée, oui. La semaine même, Omblin, on va revenir lundi.
Lundi, bah oui, avec Julien Peirce à partir de 5h.
Et moi je serai là à 6h lundi matin. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter. Europe 1.